Chapitre 7e. L'automobile armée. Ces bons gendarmes, Marollet et son brigadier, avaient été convoqués, appelés à Melun pour une affaire de service concernant le recrutement. Ils devaient se trouver à la place de Melun d'assez bonne heure pour pouvoir être de retour dans la même matinée à leur résidence. C'est ainsi que, chevauchant paisiblement comme tout bon gendarme, Marollet et son brigadier avaient dérangé l'opération des cambrioleurs de la villa et troublé nos assassins dans leur audacieuse opération. C'est ainsi qu'ils avaient effectué mon arrestation. Et maintenant je me trouvais, non dans un des cachots où, selon le règlement, ils devaient me loger, en attendant mon transfert aux autorités civiles, mais dans un lit de la pièce servant d'infirmerie aux gendarmes. Je l'ai dit plus haut, le gendarme n'est pas sans pitié, c'est un brave homme au fond. Vraiment, s'il arrive toujours trop tard, ce n'est pas par l'effet d'un malheureux hasard. Quand il arrête un malfaiteur, c'est que vraiment, il ne peut faire autrement. Mon cas en est la preuve indéniable. Maintenant qu'il me tenait, Marollet et son brigadier se montraient pleins de compassion pour leur prisonnier. Au lieu de m'emprisonner, ils me conduisirent à l'infirmerie, me fournirent de l'eau chaude pour me débarbouiller. Quand, débarrassé de la boue et du sang qui me couvraient, et me mettaient comme un masque d'épouvante, quand j'eus repris ma figure humaine, les deux gendarmes, secondés par quelques camarades, me pansèrent, m'appliquèrent je ne sais quel remède, avec toute la douceur dont des mains de gendarmes sont susceptibles, en attendant la venue du major qu'on était allé prévenir. Comme non seulement mes vêtements, mais même mon linge de corps étaient détériorés, un gendarme voulut bien me prêter une chemise d'ordonnance. Ainsi je pus me mettre au lit et attendre les événements. Le brigadier poussa l'amabilité jusqu'à ne pas vouloir pour le moment me faire subir d'interrogatoire. Cependant il me demanda machinalement, selon l'habitude, « Avez-vous des papiers ?» Des papiers, non, je n'en avais pas, et pour cause. Je portais, au moment de ma chute, le costume que m'avait fait endosser Martin Numa, pour que celui dans lequel on m'avait vu demeurât bien dans ma chambre et confirmât les assassins dans leur erreur, leur donnant complètement l'assurance que le mannequin qu'ils allaient poignarder était bien Courville. Je fus forcé de me reconnaître sans papier, ce qui, aux yeux de la loi ou à ceux des gendarmes, est de la plus haute gravité. Néanmoins, en la circonstance, cela n'aggrava pas mon affaire. Je tombais de fatigue, j'étais absolument brisé, et la chaleur de ce lit qui, pour être quelque peu dur, m'offrait un confort suffisant, m'incitait au sommeil. L'ébahissement que je ne fus pas maître de dissimuler le firent voir aux gendarmes. Comme je n'avais pas d'effet à ma disposition, que par conséquent je ne pouvais m'enfuir en chemise, le brigadier me laissa dormir. En somme, tout avait pris bonne tournure pour moi. Je n'avais donc plus qu'à attendre, sachant très bien que Martin Numa ne me laisserait pas longtemps en peine, et que quand il en serait temps, il viendrait m'arracher à la paille humide des cachots que pour moi était ce bon lit. J'avais fait un bon somme quand je fus réveillé par un bruit de bottes et de gros souliers. Autour de mon lit se tenaient Marollet et son brigadier, puis deux agents de police et deux autres personnages en civil qui, je le devinais aussitôt, devaient être en effet le commissaire central de Melun et son secrétaire. Mon interrogatoire allait avoir lieu. Je me levai donc sur mon séant, secondé par ce brave Marollet, et me disposai à ne répondre qu'autant qu'il serait nécessaire pour ne rien compromettre, ne rien trahir de l'aventure dans laquelle je me trouvais mêlé. Donc, au commissaire, je déclarai « Ce que vous a dit le brigadier de gendarmerie est l'expression même de la vérité, c'est exact. Votre nom ? Courville. Profession homme de lettres, demeurant à Paris, en villégiature aux environs de Fontainebleau. » J'insistais alors. « C'est tout ce que je puis vous dire, monsieur le commissaire, et je vous prie de ne pas chercher à obtenir de moi d'autres renseignements. Cependant, j'ajoutai aussitôt, je suis loin d'être le malfaiteur que les apparences vous montrent. Croyez-moi bien, mais je suis en ce moment très souffrant. Plaît-il à votre obligeance d'envoyer seulement quelqu'un, mais de la façon la plus discrète, dire à mes amis de la villa qu'on a cambriolé cette nuit, que je suis ici? Cela est nécessaire, cela est indispensable. » 2 heures après, le commissaire central revenait. Cette fois, il avait perdu tout air rébarbatif et c'est en riant qu'il s'approcha de mon lit. « Ah, cher monsieur Courville, me dit-il, celle-là est bien bonne. On vous a renseigné, vous savez ?»« Oui, le brave Marollet n'en fait jamais d'autre. Je vous annonce la visite de vos amis. » Peu après, en effet, dans l'infirmerie de la gendarmerie, entrèrent notre hôte et sa femme. Eux aussi riaient. « Vraiment, cher ami, me dirent-ils, si vous n'étiez endommagé par votre chute de bicyclette, ce serait à mourir de rire. Votre arrestation est du pur vaudeville. » « Oh, nous pouvons franchement rire. Tout d'abord, nous avons été inquiets. mais quand nous avons été rassurés sur votre sort, la maison, soit dit sans vous froisser, a retenti d'éclats de rire. Celui qui ne fut pas le dernier à s'esclaffer fut celui que vous connaissez. Jamais nous n'avons vu rire d'aussi bon cœur. Oui, en effet, je me doute que cela devait énormément l'amuser. Il se représentait votre entrée dans Melun, à cheval, entre deux gendarmes. Au chevet de mon lit, de nouveau, on se mit à rire, et je m'amusais moi aussi grandement de mon aventure. Cependant, je ne pouvais demeurer plus longtemps ici. Le commissaire central me signifia ma mise en liberté. Comme mes amis avaient eu l'amabilité de m'apporter mes vêtements, je pus m'habiller. « Nous ne vous emmenons pas, » me dit mon hôte. « Cependant, je ne dois pas demeurer ici indéfiniment. Non, dans le courant de la journée, on viendra vous prendre. Bien, compris. » Dans la soirée, en effet, on va me prévenir qu'une automobile se trouvait dans la cour de la gendarmerie et qu'on me demandait. Je descendis rapidement et sous la fourrure épaisse du chauffeur, je reconnus aussitôt Philippe, le second aide de Martin Numa. Dans la voiture, deux voyageurs, des agents de la brigade du roi des détectives. On me donna une fourrure, une casquette, des lunettes, l'équipement complet du chauffeur. Puis, après une dernière poignée de main au gendarme infirmier qui m'avait soigné, nous nous élancions sur la route de Paris. Comme nous roulions entre Brunois et Villeneuve-Saint-Georges, sur la route, droite, égale, très belle, nous vîmes venir dans notre direction, bien à la droite, une automobile qui allait à bonne allure aussi. La voiture, de grand tourisme, semblait posséder un moteur puissant. C'était une grosse limousine. Devant, il y avait trois voyageurs, y compris le chauffeur. « Tiens, » fit observer Prosper, « ils sont donc nombreux dans cette voiture qu'ils montent trois devant. » Par les vitres de devant, nous pûmes encore distinguer deux autres têtes de voyageurs. Et par les portières, d'autres têtes se montraient. « C'est donc un omnibus que cette voiture, » fit encore Philippe. Et tout en parlant, il tapa derrière lui du doigt au carreau pour avertir les agents qui se trouvaient dans la voiture. « Regardez ça, » leur dit-il. La limousine avançait toujours. Mais il nous sembla qu'en approchant de nous, elle ralentissait quelque peu son allure. « Eh !» fit Prosper, « qu'est-ce que ça veut dire ?» Tout cela ne dura que quelques secondes, car la limousine fut promptement à notre hauteur. « Attention !» cria Philippe. Il avait lui aussi ralenti son allure. Les deux voitures maintenant se trouvaient à la même hauteur. Alors, subitement, des coups de feu retentirent. De la limousine partirent des détonations nombreuses, des bras se tendirent vers nous, des mains tenant un revolver nous mitraillaient. De notre côté, les agents répondirent. Mais Philippe avait quelques mètres avant d'être à la hauteur de la limousine, rendu à son moteur toute sa force. Et notre voiture s'enleva, fit véritablement un bond et passa devant la limousine comme un bolide. Des coups de feu retentirent encore. De la limousine, on continuait à tirer sur nous. De notre voiture, par le regard laissé percer dans l'arrière de la capote, un agent, admirable tireur, muni d'une carabine à répétition d'une grande force, tirait sur la limousine alors que nous étions déjà hors de portée des revolvers. Philippe, d'ailleurs, pour seconder l'adresse du tireur, avait arrêté sa voiture. « Eh bien, » demanda-t-il en même temps, « personne de blessé ?»« Non, personne ici, » répondit-on de l'intérieur. « Et chez vous ? Rien. Monsieur Courville, je n'ai rien. » répondis-je. Cependant, notre voiture portait les traces de balles. C'était seulement grâce à l'habile manœuvre de Philippe que les coups de revolver de la limousine n'avaient pas porté plus gravement. Cet arrêt qu'il fit d'abord subir à sa voiture, puis le bond qu'il lui imprima ensuite, trompèrent les voyageurs de la limousine. Ils visèrent au milieu, droit sur nous, et grâce au bond, leurs balles n'atteignirent que les panneaux de la capote. Les nôtres, connaissant sans doute la manœuvre, visèrent en conséquence. Et maintenant, le tireur à la carabine continuait de tirer dans la limousine comme dans une cible. Une cible qui fuyait sans doute, mais allait en droite ligne et demeurait, malgré la distance, un beau point de mire. Chaque coup porta à n'en pas douter. « Allons, » dit Philippe, « je crois qu'ils en ont encore plus que nous. » Maintenant, nous ne pouvions ignorer à qui nous venions d'avoir affaire. « Toujours les ennemis de Martin Numa, » m'écriai-je. « Toujours ? Ah, ils sont hardis. » C'était une forte tentative que celle-là pour se débarrasser de quelques aides. Et de l'historien attitré, ces hommes sont très forts. Il faut en outre qu'ils soient extrêmement renseignés sur nos faits et gestes, qu'ils soient aussi très documentés. Oh, ils le sont. Ils ont reconnu, et de loin, l'automobile du chef. Ils savaient aussi qu'elle allait passer par là. Je n'ai pas pu m'empêcher de déclarer cela très fort. Plus tard, Martin Dumas, quand nous parlâmes de cette aventure, me dit « À première vue, mon cher Courville, cela peut paraître fantastique et quand vous le raconterez plus tard, il se rencontrera bon nombre de lecteurs qui crieront à l'impossible, à l'invraisemblable, nous les laissons crier à leur aise. D'autant plus que nous ne les entendrons pas. Les lecteurs, mon cher ami, ont en général l'habitude d'admettre toutes les invraisemblances qui se glissent dans les romans historiques. Dès qu'un héros a revêtu la tunique de mousquetaire, tout ce qu'il peut faire de fantastique est regardé comme absolument naturel. On va même jusqu'à dire que s'il ne faisait pas ses folies, ce ne serait pas la peine d'être mousquetaire. Bien souvent. Mais aux héros de nos jours, qui vont en veston, on ne leur fait qu'un crédit restreint, j'en conviens. Vous verrez qu'on vous dira « Est-ce que c'est possible, à quelques kilomètres de Paris, sur une route fréquentée, à la nuit tombante, est-ce admissible qu'on attaque ainsi une automobile à coups de revolver ?» Et cependant, j'y étais. Oui, il est même heureux que vous en soyez revenu pour pouvoir l'écrire. Puis, reprenant son sujet, le roi des détectives ajouta « Quant au côté merveilleux de l'aventure et le seul qui puisse vous intéresser, vous, Courville, laissez-moi vous démontrer comme il est petit et comment cette rencontre était à prévoir. » Comment il fallait s'y attendre, voyons. La veille, les bandits ont tenté contre moi, contre nous, un coup hardi, et que depuis longtemps, sans aucun doute, ils escomptaient, dont nous avons vu, pour ainsi dire, la préparation. Pour eux, c'était un coup qui, s'il réussissait, leur devait donner, vous en convenez, l'absolue victoire. Parbleu, s'il vous tuait, ce coup rata, il rata complètement, totalement. Martin Dumas, une fois de plus, sortit vainqueur. Oui, je leur enlevais les gens qui devaient vous tuer, les deux compagnons probablement les plus hardis, les plus braves, les plus intelligents. Cette nouvelle désastreuse a dû être aussitôt transmise par les deux gaillards que vous avez voulu suivre. Les deux veilleurs de nuit ont donné l'alarme. Pendant que l'on vous emmenait prisonnier à Melun, eux étaient revenus à Fontainebleau avertir leur chef du désastre et de la disparition de leurs camarades, qui se trouvaient dans la villa quand Marolais et son brigadier firent leur majestueuse apparition. Très certainement. Alors vos ennemis ont pris leur disposition pour savoir ce qu'étaient devenus les deux hommes. Peut-être même préparaient-ils un assaut. Voulaient-ils prendre la villa de force pour délivrer leurs compagnons? Probablement. Ils ont également demandé du secours à leurs complices de Paris. C'est logique. Naturellement, les espions ont vu que l'on venait de la gendarmerie de Melun à la villa pour vous. Ils ont vu nos hôtes se rendre à Melun pour vous faire visite. Ils ont vu aussi la voiture entrer dans la cour de la gendarmerie. En effet, rien de plus facile alors que de signaler la voiture et de faire partir contre mon automobile une limousine armée, c'est vrai. Croyez-moi, mon cher, ces hommes avaient une revanche à prendre, une vengeance à tirer, quelle qu'elle fût. Ils devaient tenter un coup nouveau sans tarder. Ils pensaient aussi que, de mon côté, je ferais venir des hommes pour nous protéger, pour garder nos amis dans leur villa, pour emporter nos prisonniers. Et c'eût été pour eux une victoire que d'en prendre, d'en tuer, d'en blesser seulement quelques-uns. Je comprends ça. Puis, il se peut en outre que Philippe ait été pisté par eux dans Paris, qu'ils aient vu partir l'automobile. Ils pouvaient ainsi préparer le guet-apens dans lequel vous êtes tombé et dont fort heureusement vous êtes sorti sans grand dommage. Martin Dumas conclut. Il faut maintenant nous attendre à des coups, à des tentatives encore plus terribles, et je n'en suis pas fâché. Au moins, nous jouons beau jeu. Ça en vaut la peine. » Évidemment, ça en valait la peine, et je sentais qu'en disant cela, Martin Dumas éprouvait une joie très grande. Mais avec cette amorce de danger, Martin Dumas ne pouvait se résoudre à attendre le péril. Cela ne le satisfaisait pas. Il allait encore le chercher, il le provoquerait. C'était du dilettantisme. Dès le matin même qui suivit la nuit du cambriolage de la villa, de bonne heure, Martin Dumas et son fidèle Prosper, ayant repris leur personnalité de peintre en villégiature, se dirigèrent dans la petite auto de nos hôtes vers Fontainebleau. Ils allaient chez le commandant,